y a tout un, voilà, tout un système pour arriver à connaître le monde qui nous entoure et les autres organismes qui sont avec nous sur, ce, sur cette planète.
Aujourd'hui, sur Mandibule, en direct du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, j'ai rendez-vous avec celle qu'on surnomme Madame Araignée. Christine Rollard n'est effectivement pas entomologiste, mais aranéologue. Et il lui arrive, avec des psychologues, d'accompagner des personnes phobiques des araignées. La phobie des insectes et des araignées partage un bon nombre de points communs, et les connaissances de Christine sur les arthropodes en général vont lui permettre de nous parler de l'entomophobie. De la petite peur à la grosse phobie, elle va vous expliquer les mécanismes qui sont à l'œuvre. Bonjour Christine.
Bonjour.
Merci de me recevoir au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Tout d'abord, je me disais qu'on pouvait définir ensemble ce qu'on appelle la peur des insectes et ses différents degrés, ses différentes façons de se manifester.
Oui, alors on peut effectivement définir cette entomophobie qui peut être aussi de l'arachnophobie pour ceux qui ont peur des araignées et quelquefois quand je reçois des gens, c'est des arthropodophobies, on va dire, hein, puisque c'est vraiment un peu toutes les petites bêtes, quoi. Alors la phobie, c'est quand même quelque chose de particulier, c'est une association d'idées qui est erronée. C'est pas une maladie, on peut en guérir entre guillemets. Et souvent, des gens pensent qu'ils sont phobiques alors qu'ils ont des peurs plus ou moins marquées. Donc, il faut bien faire la distinction, effectivement, entre peur qui devient quelquefois une angoisse et cette angoisse, quelquefois, qui va être très, très, très anxiogène et qui va être handicapante dans la vie de tous les jours, voire très, très problématique et qui devient vraiment véritablement une phobie.
Et c'est une peur qu'on peut dire primaire ou bien c'est une peur qu'on va développer au fil de sa vie ?
Alors, les peurs primaires, on les a. Nous, en tant que mammifères, on a besoin, entre guillemets, et on fonctionne avec ces peurs ou effectivement, ces surprises, donc qui sont des peurs normales. Hein. Donc, on a besoin de ça. Effectivement, ça fait partie un peu de notre système de survie. Par contre, effectivement, après, c'est des peurs comme celles qui vont enclencher des phobies. C'est pas quelque chose d'ancestral, c'est pas quelque chose de qui correspond à la peur primaire, hein, à la peur normale, c'est autre chose. Il y a un autre processus qui va se déclencher. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a de toute façon inné en nous, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on va déclencher en faisant cette association d'idées qui est fausse.
Oui, donc on parle beaucoup aussi de l'entourage qui peut transférer cette peur. Quelle est cette part de responsabilité ?
D'après les psychologues, c'est vrai que le côté éducation, hein, donc et le cercle familial en particulier ou des amis est une part de la phobie, mais c'est pas seulement ça. Hein, il n'y a pas que ça, c'est pas vraiment quelque chose qui va être le plus marquant dans la phobie. Bien évidemment, ça y participe parce que quand on entend autour de nous toujours le même refrain sur attention à cet insecte, etc., on va réagir quelquefois en se disant oh là. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc, bien évidemment, ça participe. Mais à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'autres choses qui participent à entretenir justement ces peurs et ces phobies avec les médias, avec les films, avec effectivement toutes les histoires qu'on peut raconter et qui ressortent régulièrement autour de nous.
Oui, c'est ça. En réfléchissant sur le sujet, je pensais par exemple à ce qu'on pouvait voir à la télé qui représente les insectes comme on ne pourrait jamais les voir dans la nature. Alors, par exemple, on a tous vu dans Fort Boyard des personnes mettre la main dans des insectes ou avoir des insectes qui leur tombent sur la tête, qui n'arrivent jamais dans la nature.
Bah, comment veux-tu, dans ces cas-là, ne pas continuer à entretenir en fait ces angoisses et ces phobies, parce que dans ce type d'émission, on va utiliser des animaux qui potentiellement dans la tête des gens quand ils les connaissent pas sont dangereux et mettre en action et en situation vraiment des choses assez problématiques. Donc pourquoi ils utilisent d'ailleurs ce type d'animaux, c'est que justement ils sont pas dangereux et que ils sont quand même pas idiots, hein, quand ils font des émissions. Mais néanmoins, ils jouent énormément là-dessus. Donc, ça va entretenir ce genre de réaction face à des animaux qui sont pratiquement toujours méconnus.
Oui, c'est ça. C'est ça, les représentations, elles vont vraiment être déformées. Et même des fois, il y a des images qui peuvent être très choquantes. Si on regarde un reportage et qu'on voit en gros plan des insectes ou des araignées s'entre-dévorer, c'est vrai que
on peut leur attribuer des caractéristiques, mais qui sont des projections, dire qu'ils sont cruels, par exemple.
Tout à fait. Et puis, tu peux mettre effectivement des termes. Alors là, tu mets le point sur deux choses qui sont vraiment très importantes, c'est-à-dire tu utilises des termes qui peuvent être anthropomorphiques, alors qu'il faut vraiment distinguer les deux mondes. Et autre chose, tu dis... En gros plan, effectivement, tu peux les voir. Or, on ne sait pas se mettre à leur échelle. La plupart de ces animaux sont petits. Et donc, quand on s'imagine bien évidemment que c'est vraiment tout petit, c'est pas du tout la même échelle que la nôtre. Mais comme c'est mis en très gros plan, dans ces cas-là, ça fait un petit peu des monstres. Hein. Et puis, dans la nature, les aliens, ça existe. Hein. Mais c'est pas forcément problématique. Mais c'est une représentation qu'on va pouvoir donner en fait de tous ces animaux qui, quand tu les regardes, effectivement. De près, tu as quand même des insectes qui ont des formes et des structures mais incroyables. Donc moi, je suis plus dans l'admiration et dans « Oh, waouh, la nature a fait tout ça » que « Oh, c'est vraiment un monstre, c'est dégueulasse » et de mettre quelque chose de négatif derrière. Non, il faut le voir comme un autre monde.
Oui, il faut choisir le regard qu'on va adopter pour les aborder. Mais justement, vous soulevez le point de l'anatomie et c'est vraiment un des aspects qui peut faire très peur. Il y en a qui vont être fixés sur les yeux, sur les textures, les pattes, les bruits. Oui. Est-ce que parfois la peur des insectes peut se résumer aussi à la peur de cette corporalité qui est très différente ?
Oui, ça joue beaucoup. D'ailleurs, moi, par rapport à la phobie, à l'arachnophobie, et quand je reçois des arachnophobes, justement, il y a aussi quelquefois une approche beaucoup plus large, hein, donc avec toutes les petites bêtes. Et en leur demandant à ces personnes, qu'est-ce qui va vous gêner dans telle ou telle bête, c'est, comme tu le soulignes, ça peut être différents aspects morphologiques déjà, hein, donc les yeux, alors là c'est problématique pour beaucoup, les yeux des insectes qui sont des yeux à facettes, hein, donc qui sont pas des yeux fixes comme nous, donc comment ça peut fonctionner, pour les araignées c'est exactement la même chose, ça peut être aussi les pattes, hein, donc le déplacement aussi de ces insectes, et le fait qu'il y en a certains qui volent, qui vont se déplacer, qui vont se poser sur nous, on va être effectivement en contact avec ces bêtes-là. Donc ça peut être quelque chose lié à la morphologie, hein, donc il y a un aspect et un caractère de la morphologie, puis ça peut être aussi pour d'autres la dangerosité potentielle qu'ils vont mettre derrière, hein, et la transmission éventuellement de certaines maladies, ou etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être travaillé au niveau individuel, parce que l'approche peut être très différente.
Oui, c'est ça. Et par rapport à la peur des maladies, justement, quelle est la part de préjugés ? Parce qu'en France métropolitaine, il me semble qu'on n'a pas trop à craindre ça.
Non, c'est vrai qu'on n'a pas quand même à se préoccuper trop de ça. Bien évidemment, il y a quelquefois des problématiques avec des moustiques qui peuvent transmettre des maladies. Si on va dans les arachnides, dans les acariens qui peuvent transmettre la maladie de Lyme. Mais c'est assez étonnant parce que c'est pas forcément ce qui ressort vraiment en priorité dans les gens qui sont entomophobes ou arachnophobes. Il y a autre chose, même si la dangerosité potentielle peut jouer, mais le nombre de cas de mort quand justement on les informe, parce que le but c'est aussi d'apprendre à connaître son objet phobique, donc la connaissance, on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas, donc la connaissance va apporter des solutions. Mais dans ce cas-là, quand on dit non, c'est pas si problématique que ça, que ça soit en France, mais aussi dans le monde entier, c'est variable, hein, bien évidemment. Je vais pas quand même parler du nombre de morts avec le paludisme, la dengue, etc. Mais ça peut jouer, bien évidemment, hein, dans l'approche, mais ça va pas forcément enclencher quelquefois une phobie comme qui est vraiment handicapante. On le connaît, mais c'est pas une phobie derrière.
Donc comme quoi, c'est pas seulement une peur primaire, ça peut pas se résumer à ça.
Exactement.
Ouais, il y a vraiment l'intellect qui va
jouer derrière, et donc la perception, en fait, si tu veux, de notre environnement et de ce qu'il peut y avoir à côté, quoi.
Oui, c'est ça. Oui, tout ce manque de connaissances, il va déclencher un imaginaire inquiétant.
Oui, complètement. Et puis en plus, on informe de moins en moins les jeunes, hein, puisque ça se prend assez jeune aussi, de tout ce qui les entoure et du monde dans lequel on vit, avec tous les organismes qui la composent. Et donc, il faut connaître un petit peu tout ça.
Oui, donc déjà, si on commence à connaître les insectes, on a moins d'a priori sur eux. Par exemple, je pense aux préjugés comme quoi les insectes sont sales. Est-ce qu'ils sont si sales que ça ?
Mais non ! Les insectes se nettoient régulièrement, puisque ce sont des organismes quand même, hein, dans toutes ces petites bêtes, il y a beaucoup d'organismes qui sont très sensoriels, qui perçoivent leur environnement grâce justement à au revêtement de leur corps. Hein. Si je reviens un petit peu sur les araignées, elles ont des soies sur le corps qui sont des soies sensorielles, mécanoréceptrices, chimioréceptrices, et on retrouve ça aussi chez beaucoup d'autres groupes, hein, dont les insectes justement. Donc ils se nettoient régulièrement. On a déjà vu quand même des insectes se frotter avec leurs pattes, les antennes, etc., pour que les antennes puissent percevoir les choses. Donc, bien évidemment, certains groupes sont associés à la saleté, parce qu'on va les retrouver quelquefois sur des détritus ou des choses comme ça. Mais l'animal lui-même n'est pas sale. On l'associe au milieu ou au lieu dans lequel il va vivre, ce qui est complètement à enlever. Le lien ne doit pas être fait. Donc, les insectes sont propres. Mais oui, certains ont un certain nombre de virus ou autres qui peuvent transmettre quand, par exemple, pour les moustiques ou les acariens, ils ont besoin de repas sanguin, ils sont hématophages, et donc du coup, bien évidemment, ils peuvent transmettre certaines maladies avec ça. Mais encore une fois, ce ne sont pas des animaux qui sont sales.
Et ni agressifs. Si le moustique pique, c'est parce qu'il veut se nourrir.
Oui, très bonne réflexion, parce que le terme d'agression et d'agressivité de ces animaux par rapport à l'homme, nous, qui pour un grand nombre ne sommes pas les proies, hein, de toute façon, mais qui peuvent être pour certains insectes, oui, des intermédiaires, hein, ou des hôtes potentiels. C'est quelque chose de vraiment très marquant, quoi. Hein. Donc du coup, les animaux ne sont pas agressifs vis-à-vis de nous, et c'est souvent nous qui sommes l'agresseur et nous qui sommes le gros prédateur. Et beaucoup d'animaux, hein, et parmi les insectes, hors ceux effectivement qui ont des repas sanguins, sont juste en train de se défendre s'ils se sentent agressés. Ce sont des réactions souvent de défense et non pas de l'agressivité, de l'attaque vis-à-vis de nous.
Oui, donc si on ne vient pas les embêter, ils ne vont pas nous embêter gratuitement.
Oui, mais sont-les tranquilles dans ces cas-là? Si on a par exemple une guêpe qui tourne autour de nous, etc., beaucoup de gens commencent à paniquer, à faire des grands gestes, etc. Non, faut rester juste tranquille. Là, on n'est pas les proies. C'est pas ça qu'ils viennent rechercher. Par contre, oui, si on est en train de manger et qu'ils ont besoin effectivement de sucre ou autre, ils vont aller autour pour essayer de retrouver ça. Mais ils sont pas dans une action. Et puis souvent, quand ils se baladent comme ça et qu'ils volent, ils sont pas dans une action de prise de nourriture. Hein. Donc, on est un élément parmi d'autres. Encore une fois, même s'il y a une bonne vision pour certains, hein, c'est pas souvent des visions à très 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 longue distance. Encore une fois, remettons-nous à leur échelle.
Oui,
on n'est pas perçu, on n'est pas forcément capté dans leur monde à eux. On n'est pas capté en tant que gros mammifère prédateur.
Oui, c'est ça, on est une montagne pour eux.
On est, un élément du décor.
Oui, c'est ça. Et puis, mieux connaître, donc l'anatomie est très important, et mieux connaître le comportement aussi pour les aborder plus sereinement, donc savoir quand est-ce qu'ils piquent. Pendant qu'on essaye de mieux les comprendre aussi, est-ce que les insectes peuvent mordre?
Alors, il y en a certains, oui. Qui peuvent mordre. Hein. J'ai fait quelquefois des missions à l'étranger. Je me fais mordre une fois par une énorme fourmi. Donc, je l'ai senti passer. Hein. Donc, j'avais la main qui s'est baladée sur une feuille et une fourmi était dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai agressé sans le vouloir. Oui, d'accord. Mais du coup, elle a réagi et s'est accrochée. Donc, oui, ça peut. Il y a certains insectes qui peuvent mordre, d'autres qui peuvent effectivement piquer. Mais encore une fois, c'est dans des circonstances particulières. Et pour beaucoup, il y en a certains qui sont venimeux, d'autres qui ne sont absolument pas. Et donc, ce sont des morsures de défense. Et puis voilà. Certains sont venimeux. Il peut y avoir effectivement des injections de venin. Mais après, on va faire des réactions qui sont complètement individuelles. Et il ne faut pas, encore une fois, augmenter cette impression de dangerosité par rapport à ça. Il faut être conscient, et comme tu le disais très bien, il faut connaître les cycles de vie, les périodes où on peut en trouver beaucoup, d'autres un peu moins, si c'est nocturne, si c'est effectivement plutôt des animaux à comportement de chasse ou de prise de nourriture diurne. Donc il y a tout un système pour arriver à connaître le monde qui nous entoure et les autres organismes qui sont avec nous sur cette planète.
Oui, et puis il faut y être préparé aussi. Je pense que la peur des morsures, des piqûres, elle vient de la peur de l'inattendu.
Complètement.
Comme vous, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours les voir et des fois, il peut y avoir des petits accidents.
Ça peut arriver, mais on n'est pas dans un monde fixe, on n'est pas dans un monde très monotone, ça bouge, on a d'autres organismes. Oui, les contacts peuvent être possibles, mais ce n'est pas la peine, encore une fois, quand on est dans le rationnel. Après, ça se travaille quand on est dans l'irrationnel et dans la phobie. Quand on est dans le rationnel, on sait que ça peut arriver, Hein, il peut y avoir quelquefois des petits accidents, mais néanmoins, on peut quand même arriver à diminuer l'approche, hein, et à mieux comprendre cette approche.
Vous disiez tout à l'heure que vous parliez du fait que c'était nous la menace plutôt que eux.
Oui.
J'avais eu le témoignage d'une personne qui était entomophobique, mm-hmm. et elle, c'était très spécifique. Elle me disait que ce qui lui faisait peur, elle, c'était d'écraser les insectes, pas de se faire attaquer, grimper dessus, mais elle avait peur du craquement.
Ah,
qui
oui.
pouvait se produire si elle écrasait un insecte. Donc ce qui la terrorisait, si elle était dans la même pièce qu'un scarabée, c'était par inadvertance de l'écraser. Et je trouvais ça assez amusant, cet inversement aussi.
Oui, oui, c'est vrai que certains le disent aussi, même pour les araignées. Hein. Jamais je n'irais écraser, parce que ça va me déclencher quelque chose que j'apprécierais pas du tout. Quoi, hein. Donc je serais vraiment très très mal à l'aise. Et c'est exactement ça, en fait, pour les insectes, quand ils sont carapassonnés et qu'ils ont effectivement, bon, donc ça peut faire un craquement. Mais en fait, encore une fois, il faut apprendre à se dire, rien que quand on marche, par exemple, dans n'importe quel milieu, encore une fois, il y a des micro-organismes qu'on ne voit pas et qu'on écrase sans le vouloir, mais on va pas s'arrêter de marcher pour autant. Donc, ça fait partie de l'impact qu'on peut avoir nous en tant que animal mammifère, et ce travail là par rapport à cette approche de l'entomophobe, c'est d'arriver à travailler là-dessus. Et le nombre de fois où par inadvertance on va écraser un insecte, c'est quand même ridicule malgré tout, hein. Donc du coup, il faut arriver à remettre ça dans le bon ordre, entre guillemets, et à essayer de faire comprendre que ça ne devient pas problématique, ça n'est pas problématique. Mais il y a tout un travail quand même, hein, ça ne se fait pas en 5 minutes, hein, quelquefois.
Ça dépend du degré, c'est ça.
Ça dépend du degré, et ça dépend effectivement de la personne et de son vécu, de son approche, c'est quand même beaucoup de choses. Moi, j'interviens souvent en tant que docteur en biologie, hein, j'interviens en tant que docteur en biologie. Néanmoins, bien évidemment, je fais des séances individuelles, parce qu'il y a quand même une approche personnelle après, qui doit être faite en fonction de la réaction de la personne et du vécu, etc. Et quelquefois, je vois que justement, ce n'est plus, à un moment donné, j'ai donné des clés, hein, par rapport à la connaissance des objets phobiques, ce n'est plus à moi d'intervenir. Et là, effectivement, certaines personnes doivent, quelquefois, il y en a certaines qui sont déjà suivies par des psychologues, mais doivent aller plus loin dans leur approche personnelle.
Oui, ça doit se faire en plusieurs étapes.
Tout à fait.
Et ce qui est très connu autour de la peur des insectes, c'est la peur de tout ce qui grouille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un qui a peur de ça ?
Oui, c'est cette multitude, en fait, qui peut vraiment gêner. Et encore une fois, il faut expliquer pourquoi, à certains moments, on a des explosions de population, parce que ça peut être effectivement pour tel ou tel insecte la période où il va y avoir une dispersion, où il va y avoir recolonisation de différents milieux, qu'il va y avoir de la... Alors, il faut réexpliquer derrière que c'est peut-être quelque chose de ponctuel, qu'il va y avoir de la régulation qui va se faire, qu'il va y avoir des prédateurs qui vont se mettre en place, que quelquefois, voilà. Donc, tout ça va jouer. Et encore une fois, essayer d'expliquer que le monde, c'est des interactions entre tous ces organismes. Mais que, effectivement, à un moment donné, on a l'impression que ça grouille, que c'est énorme, et c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui est très dérangeant pour certaines personnes. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça sont quelquefois agoraphobes aussi, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas du tout la foule, ils n'aiment pas même au niveau de notre espèce humaine, hein. Donc on se rend compte qu'il y a encore autre chose derrière. Donc il y a une association avec si je me retrouve avec une multitude, je sais pas quoi faire, je vais me retrouver au milieu de tout ça, je vais être agressée, etc. Et donc, tout ça, c'est encore à travailler. Mais encore une fois, en expliquant le pourquoi tout d'un coup, surpopulation, pour certains, ils parlent d'invasion. Bon, alors, il y a quand même des invasions de temps en temps, on en voit actuellement aussi avec les criquets, hein, en Afrique, etc., et qui dévastent beaucoup de choses. Donc, bien évidemment, il peut y avoir des problèmes, mais là, c'est pas par rapport à l'homme, hein, c'est par rapport aux cultures, etc. Mais encore une fois, c'est la connaissance, c'est l'explication.
C'est ça, et c'est marrant, c'est le lien qu'on peut tisser aussi avec d'autres phobies. Et vous évoquiez justement ces phénomènes un peu d'invasion avec les criquets, par exemple. Et j'avais vu cette anecdote d'un entomologiste, Jeffrey Lockwood, qui, je ne sais pas si vous la connaissez, cette anecdote, qui s'est retrouvée à étudier le phénomène d'invasion de sauterelles aux États-Unis, et qui, lui, qui avait pourtant l'habitude de fréquenter les insectes, avait été pris d'une crise de panique. Donc comme quoi, ça peut aussi arriver à tout le monde. Et ça l'avait vraiment bloqué après, pendant quelques mois, dans l'exercice de sa profession. Donc il a décidé d'écrire sur la phobie des insectes.
Exactement. Mais je pense que ça peut être aussi justement une, voilà, un élément vécu, hein, de cette façon-là, avec une réaction qui, quelquefois, est plus exacerbée que la réaction de peur normale. Mais j'imagine que je me retrouve dans une situation comme ça, avec une multitude de bêtes qui sont en train de volter autour de moi, je pense que je ne serais pas forcément très à l'aise non plus. Pour autant, cette peur, juste à un instant T, donc normalement ne devrait pas enclencher une phobie, mais ça peut effectivement arriver, hein. Donc c'est quelquefois un événement qui fait que paf, on fait l'association d'idées qui est fausse quand on connaît, et quand on remet dans le rationnel, et quand on connaît la bête.
Oui, c'est ça, des fois il suffit d'un épisode pour déclencher la peur.
Oui, tout à fait.
On va entrer dans la partie solution. Je voulais savoir quels étaient les avantages à essayer d'affronter cette peur, parce que c'est une démarche qui n'est pas spécialement facile, mais qui peut avoir beaucoup d'avantages, plus qu'on l'imagine.
Oui, tout à fait. Alors bon, après, il faut se poser la question, même au niveau psychologique, hein, certains vont rester un petit peu dans cette phobie, dans cette association d'idées. Et le psychologue avec qui j'avais fait le livre « Je n'ai plus peur des araignées », essayait de faire en sorte que les gens se posent la question, mais qu'est-ce que ça m'apporte, la phobie? Qu'est-ce que ça m'apporte de rester comme ça, entre guillemets, hein. Mais encore une fois, il faut bien distinguer les peurs plus ou moins marquées jusqu'à des phobies très handicapantes, hein. C'est quelque chose de différent, hein. Donc cette phobie, quand on a un objet phobique comme ça, comme un insecte ou autre, le but, c'est pas de l'éviter, c'est d'y être confronté. Si on l'évite, on continue à entretenir sa phobie, puisqu'on continue à ne pas vouloir rentrer dans la connaissance. Donc la solution, c'est vraiment de ne pas l'éviter, d'essayer de s'y confronter régulièrement, progressivement. J'aime pas aussi les gens qui font des expériences avec des personnes phobiques sans avoir discuté beaucoup avec, ou en leur présentant un gros insecte sur la main ou une grosse araignée. C'est pas comme ça non plus. Je pense qu'il faut vraiment faire ça de façon progressive, mais l'évitement n'est pas la bonne solution. Il faut vraiment être confronté à cet objet phobique.
Il faut pas y aller de façon brutale.
Non.
Donc des fois il faut passer par un psychologue, mais pas spécialement toujours. Des fois, par exemple, intégrer un club nature, ça peut aussi suffire pour être sensibilisé.
Oui, tu as raison, il faut faire des démarches, hein. Il faut faire des démarches pour arriver à aller vers la connaissance. Alors quelquefois, certains vont mettre beaucoup de temps, hein, à faire le pas de prendre le téléphone pour prendre un rendez-vous, ou de se dire je vais aller vers des gens qui sont dans des associations, dans des clubs, ou des spécialistes qui vont pouvoir me renseigner. Ben, selon les personnes, ça va prendre du temps, hein. Mais à partir du moment, et c'est ce que je dis souvent aux gens qui viennent me voir, certains m'ont dit, mais je savais que vous faisiez des séances, j'ai mis 2 ans à prendre le téléphone et à prendre un rendez-vous, ou à vous écrire un mail. Donc, rien que déjà de faire cette démarche et de se dire, je fais le premier pas, après, il faut rester sur cette première marche de l'escalier, et il faut petit à petit progresser. Mais c'est hyper important pour les gens, déjà, d'aller vers, hein, et de faire la démarche d'aller vers la connaissance de son objet phobique.
C'est presque 25% du travail de...
Ah, c'est déjà... Ouais, tout à fait. Ouais. C'est très, très important. Et après, il faut continuer, quoi. Et après, une fois qu'on apprend à connaître, souvent, on a des connaissances que la majorité des gens n'ont pas. Mmh. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est... Maintenant, c'est à vous de faire le prof. Mmh. Et à vous de vous approprier ces connaissances, et de les travailler et de les retransmettre. Ça fait partie de la thérapie aussi. De dire, mais je savais pas que c'était comme ça, ou voilà ce que j'ai pu travailler. Parce que quelquefois dans l'entourage, il y en a aussi d'autres, hein, qui sont plus ou moins à l'aise. Hein. On disait, bon, l'éducation ou les proches, ça transmet des choses, mais c'est pas que ça. Mais après, on peut quand même travailler avec eux pour pouvoir continuer à essayer de changer son regard.
Ça m'amène à cette question qui est de se demander, est-ce qu'on peut pas juste supprimer la peur, mais même éveiller un certain intérêt, une certaine curiosité pour ce petit monde qui était évité jusqu'à présent?
C'est tout à fait ça, en fait, Lise. C'est tout à fait ça, parce que souvent je dis, mais actionnez maintenant votre curiosité. Comme quand vous étiez petit, et que souvent, hein, quand même, la plupart des enfants n'ont pas peur de grand-chose, hein, sauf si on, quelquefois on leur dit « touche pas à ça, c'est sale », par exemple, ou « attention, ça va te piquer », ou etc. Donc on enclenche quelquefois des petites choses. Ben bon, certains, ça passe, et pour d'autres, ça reste ancré. Donc du coup, oui, c'est... on était curieux, on voulait tripoter tout, donc j'apprends aussi qu'il ne faut pas toujours tout tripoter, parce que, juste, non pas parce que c'est dangereux, mais parce qu'il faut respecter les autres animaux, donc c'est le respect de la nature et des autres organismes, mais on se dit, ah oui, tiens, c'est comme ça, ah ben pourquoi j'en ai vu, tiens, qui volait, ah ben oui, mais c'est la période de reproduction, tiens, et du coup, par exemple, tel insecte, tel mâle va chercher une femelle, par exemple, ou, ah ben ça vit là, et ça va se nourrir, tiens, sur telle ou telle fleur, ou etc. Donc, ça, c'est hyper important, et donc, on actionne la curiosité, ça c'est un élément très important.
Mais oui, parce que c'est tellement varié comme univers.
Oui, je pense qu'on a absolument aucune idée de la diversité, de la biodiversité. Les insectes, quand même, d'un nombre d'espèces considérables, qui recouvrent d'ailleurs l'ensemble des autres organismes et des autres animaux. Hein. Donc oui. C'est énorme.
C'est tout un monde qui doit s'ouvrir quand on commence à s'y intéresser. Et pour revenir un petit peu sur l'éducation, donc certes, le rôle de l'éducation n'est pas le seul élément qui va déclencher la peur, mais si jamais vous aviez quelques conseils pour des parents ou des éducateurs pour aborder les insectes sous un angle plus positif, et quel serait-il ?
Ben, je pense que il faudrait justement enclencher le fait que c'est beaucoup plus diverse et beaucoup plus varié qu'on ne le pense. Qu'on a souvent juste un tout petit aspect au bout de la lorgnette, quoi. Donc il faut ouvrir beaucoup plus et expliquer plus les choses par rapport à la diversité de comportement, la diversité de formes, de reproduction, de mode de chasse, par exemple, etc. Et donc arriver à faire regarder aux enfants ou aux adultes, hein, de toute façon aussi, le monde d'une autre manière. Donc, arriver à observer ça d'une autre manière. Donc, par rapport aux animations que moi aussi j'ai pu faire, j'essaye d'emmener les enfants ou d'emmener les adultes, hein, quand je fais aussi des animations pour les adultes, sur le terrain, dans la nature. On a perdu quelquefois ce lien avec la nature, et de leur dire, mais apprenez à regarder. Et puis, bien évidemment, derrière, avec un discours qui va dire, bah tiens, telle espèce, c'est, alors on sort beaucoup d'idées reçues, mais enlever au fur et à mesure les idées reçues, en donnant encore une fois la connaissance. Donc c'est aborder ça de façon la plus naturelle possible, en montrant où ça vit, en montrant le comportement qu'il peut y avoir, et en donnant les éléments derrière de biologie qui sont réels, et non pas complètement hallucinants, quoi.
Et puis vous mentionnez au début du livre sur la peur des insectes, le fait aussi de l'importance de ne pas se moquer aussi pendant qu'on parle de pédagogie.
C'est très important, tu as raison, parce que je dis souvent ça aux enfants, hein, toi tu te moques de lui ou d'elle, je suis sûre que tu as d'autres peurs que tu n'as pas forcément mises en avant, et plus tu te moques, plus tu entretiens encore une fois la peur de ton camarade. Donc arrête de réagir comme ça, et on en discute, ou tu changes ton approche pour dire, ah ben oui, mais bon, tu essaies de faire comprendre, tu compatis par rapport à ça, et tu vas essayer avec ton camarade de, si toi t'as des connaissances, ben de lui transmettre, d'expliquer, mais sans te moquer, parce que encore une fois, ça aussi c'est un comportement qui peut entretenir la phobie, bien évidemment.
Et comme on dit, ça peut arriver à tout le monde. C'est ce qu'on voyait avec l'anecdote de l'entomologiste.
Exactement.
Et même si on ne se considère pas comme phobique, on a tous déjà peut-être été déstabilisés par une petite bête qu'on ne connaissait pas et qui faisait son apparition.
Voilà, une petite bête ou une grosse bête. Tu sais, la première fois j'ai vu, moi, une énorme mygale. Hein. Donc, la plupart des araignées sont de petite taille, mais bon, certaines mygales tropicales, bon, la plupart sont petites aussi, hein, même sous les tropiques, mais certaines sont grosses. Et la première fois que j'ai vu sortir une grosse mygale d'un terrier, j'ai eu un mouvement de recul et j'ai été impressionnée. Donc il faut bien distinguer aussi, et c'est ce qu'on disait au début, les différents niveaux de peur, et puis savoir si tu as un effet de surprise qui est tout à fait normal aussi, il faut le garder, hein, avec quelque chose qui est très impressionnant. Mais après, tout de suite, moi j'ai enclenché, oh là, j'étais impressionnée, elle s'est mise en position d'intimidation, les pattes levées en plus, mais après personne n'a bougé autour, et hop, elle a reposé ses pattes et elle est repartie. À partir du moment où on sait et on comprend, encore une fois, nous l'avions dérangée, elle s'est mise en position d'intimidation. Donc même avec le côté impressionnant et un petit peu de surprise ou de peur que tout le monde peut avoir, on essaie de se remettre dans le rationnel et de changer encore une fois son regard.
Du moment qu'on apprend à se connaître, à déconstruire ce qui provoque les émotions, on peut les aborder plus sereinement et reprendre le dessus aussi sur les émotions.
Certains d'ailleurs font des séances aussi quelquefois d'hypnose par rapport à ça, parce que c'est vrai que l'hypnose peut servir à enlever certaines phobies, a priori, ou des addictions ou des choses comme ça, mais faut voir combien de temps ça peut durer, mais c'est souvent aussi une pratique qui va dans... on essaye d'enlever un peu le côté émotionnel par rapport à... Voilà, on essaye d'être le plus neutre possible face à un comportement. Alors, c'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver comme ça. Et de pas mettre d'émotion par rapport à ce qu'on peut voir. Bon, ce qui me gêne un petit peu, mais ça peut aussi ponctuellement ou temporairement marcher.
C'est bien aussi, oui, d'aborder l'hypnose. Je voulais avoir votre avis là-dessus.
Ça marche ou ça marche pas, selon les personnes, de toute façon.
À tester.
C'est pas encore une solution, c'est pas une solution miracle non plus.
Oui, c'est ça. Et pour finir, je souhaitais avoir votre point de vue aussi sur ce réflexe qui est d'écraser les insectes. Souvent, les gens le font parce qu'ils pensent ne pas pouvoir faire autrement. Mais la plupart du temps, il y a des alternatives, j'imagine.
Ben, l'alternative, c'est effectivement de se dire, bon, vraiment, il me gêne. J'ai pas envie de l'avoir, par exemple, on n'a pas évoqué ça, mais c'est aussi important par rapport au lieu dans lequel on va découvrir ces animaux. Régulièrement, on dit, dehors, ça va encore, mais à l'intérieur, ça va pas du tout, quoi. Donc, dans notre petit univers qu'on s'est construit, qu'on pense être en dehors de tout autre organisme que nous, on n'a pas envie de les garder. Donc, écraser, c'est vrai que c'est un réflexe quelquefois qu'on a l'impression que c'est un réflexe de survie, alors que bon, c'est pas du tout un réflexe de survie, parce que la majorité sont pas dangereux. Mais on apprend, et moi je l'apprends aussi par rapport aux araignées, c'est-à-dire éventuellement de déplacer la bête, mais tranquillement, sans l'agresser, encore une fois, en utilisant un verre, en utilisant des moyens en fait pour le déplacer. Déplacer quelquefois en leur expliquant que si on le met dehors, c'est pas forcément son milieu. S'il était dans la maison, ou si c'est parce que c'est un animal qui vit dans un endroit abrité, soit il était peut-être de passage, mais soit il vit bien là, dans un tout petit coin qui correspond à sa petite maison. Et donc du coup, apprendre à se dire, bon, je peux éventuellement le déplacer, mais sans l'agresser. Donc ça s'apprend aussi. Et voilà, je peux le laisser vivre et continuer à faire son office, soit de prédateur, soit d'insecticide, soit de n'importe quoi, dans l'équilibre naturel.
Ça va aussi dépendre du type d'insecte qu'on a. Si c'est un frelon qui vole, ce ne sera pas la même méthode que pour un cafard dans la
salle
de bain.
Un frelon qui vole, on ouvre la fenêtre et puis on le laisse s'envoler. Ce n'est pas forcément dangereux non plus, contrairement à ce qui est raconté justement aussi souvent dans les médias.
C'est important de le rappeler.
Bon, la mouche après, bon, c'est pareil, on peut laisser ouvert. Après, on peut avoir par exemple dans les habitations des mites dans nos vêtements, dans nos denrées alimentaires. C'est vrai que ce n'est pas toujours très agréable. Mais il faut essayer de trouver des moyens, mais les moyens les plus naturels possibles.
Et puis les insecticides ne sont pas toujours la solution miracle, surtout que ça peut se retourner contre nous. Donc là, la question d'instinct de survie, elle est un petit peu contradictoire.
Les problèmes de santé quand même avec les insecticides, il faut faire attention. Laissons du coup les araignées dans les maisons, parce que c'est des très bons insecticides naturels par rapport aux insectes qui peuvent nous gêner de temps en temps, ils en mangent.
C'est vrai.
La liaison est faite.
Exactement, et puis c'est un autre avantage de résoudre sa peur pour justement apprendre à déplacer ces petits êtres au lieu de les écraser automatiquement.
Exactement.
Et en tout cas, si vous écoutez ce podcast, c'est que ce sont précisément les araignées qui vous effraient. Je vous conseille la lecture donc, de ce fameux livre que Christine Rollard a coécrit avec un psychologue et qui s'appelle « Je n'ai plus peur des araignées ». Donc ça peut être un très bon prolongement à cette écoute. Merci beaucoup Christine.
Merci, avec plaisir.
Voilà pour cet épisode consacré à la peur des insectes. N'hésitez pas à le partager à des personnes que ça pourrait aider. Christine nous l'a bien expliqué, avoir moins peur des insectes commence par une meilleure connaissance de ceux-ci. Et ça tombe bien, car c'est ce que je vous propose avec Mandibule, c'est-à-dire déconstruire notre regard sur les insectes grâce au partage de connaissances et d'histoires des invités. Alors n'hésitez pas à vous abonner à Mandibule sur votre plateforme d'écoute favorite et sur Instagram pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt !